Donc je vais encore vous parler de l'IMEC. Yves Chèvrefis d'Ébiole tout à l'heure vous a parlé des fonds artistiques et moi je vais vous parler des fonds d'écrivains, d'auteurs, de maisons d'édition, en les restreignant d'une part à ceux qui contiennent des archives portant sur la Seconde Guerre mondiale, et non seulement des archives portant sur la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des archives autobiographiques, histoire de centrer un petit peu le propos. Alors, dans les fonds déposés à l'IMEC, on trouve différentes sortes d'archives qui documentent la Seconde Guerre mondiale. Parmi les quelques 1400 items que j'ai repérés avec mes collègues, dans plus d'une centaine de fonds littéraires ou intellectuels, les archives autobiographiques, c'est-à-dire les lettres, les journaux intimes, les mémoires, les récits, forment une part importante et en tout cas la plus intéressante intellectuellement et aussi la plus inédite, la moins consultée. Ces archives autobiographiques, elles ont été numérisées, décrites matériellement, légendées historiquement et figurent dans une base de données qui contient tous les renseignements nécessaires à leur conservation, à leur localisation et à leur valorisation. Parce qu'elles ont été montrées dans une exposition à géométrie variable qui a le titre « Archives de la vie littéraire sous l'occupation ». Et cette exposition, elle a d'abord été montrée à Caen, ici même, au Mémorial, en 2008. Elle est partie à New York en 2009 et elle a été montrée à Paris en 2011, l'année dernière. Toutes ces archives ont aussi été regroupées dans un catalogue d'expositions qui a été publié chez Talendier. Alors, l'éventail d'archives qu'offre l'IMEC est très largement ouvert et sans parti pris. On trouve aussi bien des archives de collaborateurs avérés et convaincus, comme Maurice Sachs, Louis-Ferdinand Céline, comme les archives d'un anglophobe invétéré et entêté, comme Henri Béraud, comme les archives de résistants déterminés, quel que soit leur niveau, aussi bien Max-Paul Fouché, Pierre Séguer, François Lachenal, René Tavernier, Jean Blanzia, Pierre Courtade et bien d'autres. Sans oublier les archives aussi de ceux qui se sont décidés à entrer en résistance, non sans quelques errements attentistes ou illusions vichistes, comme par exemple Pierre Brisson ou Emmanuel Mounier. Il faut cependant remarquer une chose d'emblée, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de récupérer des archives d'un collaborateur que des archives d'un résistant. Parce que le collaborateur, pendant la guerre, il ne fait pas trop attention à ses archives, il est persuadé d'être dans son bon droit, et donc il fait absolument pas trop attention à ce qu'il garde chez lui. En revanche, au moment où la libération est arrivée et l'épuration, il a commencé à trier toutes ses archives. Et du coup, quand on récupère des archives venant de quelqu'un qui a été favorable à la collaboration, on trouve assez peu de choses. En revanche, tout le contraire se passe pour les archives d'un résistant qui, pendant la guerre, fait attention à laisser le moins de traces possible derrière lui, non seulement pour ne pas se trahir lui-même, mais pour ne pas trahir ses amis et ses réseaux. Mais, en revanche, au lendemain de la libération, il a à cœur de reconstituer la geste résistante et peut-être aussi un petit peu la légende dorée, comme on peut le voir par exemple à l'IMEC dans les archives de Pierre Segers. Si l'on tente une typologie des archives de la période de la Seconde Guerre mondiale, qui dépasse moi aussi fatalement les seules années 1939-1945, je crois qu'il faut aller du plus public au plus intime, ce qui permet de définir des séries qui valent ce qu'elles valent, mais qui permettent au moins de classer ces pièces autobiographiques et autobiographies prises dans l'acception la plus large. Je vous propose donc une image simple, celle d'un gigantesque iceberg qui représenterait la masse homogène et solidaire de toutes ces archives d'écrivains ayant été actifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je vais d'abord vous décrire rapidement ce qui est émergé, est visible, donc ce qui correspond à ce qui a été imprimé et qu'on peut trouver à l'IMEC comme dans d'autres bibliothèques. Et puis je vous décrirai un peu plus précisément la partie immergée de l'iceberg qui correspond pour moi à ce qui est inédit, à ce qui est intime et au privé. Et qu'il est donc difficile de trouver dans les archives quand on est extérieur à ces archives mêmes. Donc ma première série va concerner les imprimés et les renéotés, les documents renéotés représentant pendant la Seconde Guerre mondiale vraiment la manière d'imprimer quand les imprimeries ne pouvaient pas fonctionner parce qu'elles faisaient trop de bruit, parce que les imprimeurs étaient extrêmement surveillés par les autorités d'occupation. Et pour moi, cette première série d'imprimés de renéotés constitue le domaine où l'on situe l'écrivain et son implication dans la société. Alors, dans cette première série d'imprimés de René Hauté, on trouve bien sûr, et c'est une évidence, donc je ne vais pas m'attarder, les livres, les tirés à part, les épreuves, les articles publiés et signés par leur auteur. Ce qu'il y a absolument dans tous les fonds d'écrivains. Mais ce qui est plus révélateur et moins prisé des chercheurs, ce sont les dossiers de documentation, les dossiers de travail, souvent constitués de journaux entiers, de revues, de brochures renéotées ou de coupures de presse qui n'ont pas un lien direct avec l'œuvre de l'écrivain en question. Mais les écrivains les ont collectés, réunis sous chemise et conservés avec plusieurs buts, plusieurs perspectives. Certainement par goût historien de la documentation et de l'archive, comme par exemple les fonds Jean Follin ou Jean-José Marchand à Limec, où l'essentiel de leurs fonds n'est pas tellement constitué de leurs propres œuvres, mais de la documentation qu'ils ont accumulée à droite et à gauche et auxquelles ils étaient extrêmement attachés. Ces écrivains ont gardé quantité de livraisons de journaux et de revues de tous bords, et pendant la Seconde Guerre mondiale, on y trouve des documents extrêmement rares, et ils ont fait ça en sachant que c'était là un témoignage irremplaçable sur leur époque et les opinions des uns et des autres. Ils ont pu aussi rassembler cette documentation souvent hétérogène dans la perspective d'un ouvrage de fiction ou de mémoire à venir, et ils ont accumulé des informations qui leur serviront plus tard pour un roman, pour une fresque, pour un récit. Bien qu'imprimés ou renéotés, ces séries documentaires prennent une valeur particulière du fait de leur producteur et de ses propres choix. Sans compter que souvent apparaissent dans ces dossiers des références qui ont pu échapper aux recherches actuelles. Et ça, ça a été le cas récent pour cette exposition dont j'ai été le commissaire, les archives de la vie littéraire sous l'occupation. On a pu sortir comme ça dans les archives, venant des archives du critique Jean-José Marchand, des articles de presse qui avaient échappé à tout le monde. Parce que le journal n'était pas disponible à la Bibliothèque nationale. Alors, on savait vaguement que dans tel article, Charles Maurras avait, et pas un article de l'Action française, Charles Maurras avait tenu des propos, écrit des propos particulièrement détestables, mais on n'arrivait pas à trouver dans quel journal c'était. Dans les archives de ces personnes, de ces écrivains, de ces critiques, qui ont réuni leur documentation sur le moment, en faisant œuvre de documentaliste presque, on a pu retrouver par exemple cet article de Charles Maurras qui avait échappé à toutes les recherches. Alors non seulement des dossiers de documentation, mais il y a aussi des collections de tracts et d'affichettes, comme il y en a d'ailleurs au mémorial, et on en avait emprunté quelques-uns pour notre exposition. Alors ça, c'est dans des fonds documentaires aussi, comme dans le fonds Jean Follin, le fonds Roger Bastide, le fonds Jean-Michel Palmier, qui est quelqu'un qui n'a pas vécu adulte pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a fait d'énormes recherches sur la Seconde Guerre mondiale. Et dans ses archives, il y a plusieurs boîtes d'affichettes, de tracts, de petits papillons déposés sur les tables. Enfin, toute une série de documents aussi, s'ils n'ont pas été collectés sur le moment et sur place, on ne peut plus les retrouver dans les archives style Bibliothèque nationale. René Tavernier aussi, le directeur de la revue Confluence, a longtemps projeté d'écrire une histoire de la résistance et pour cela, il a collecté après coup des documents, des affichettes et des petits tracts. Avec la presse de l'époque, ce sont les documents les plus représentatifs de l'état d'esprit général de la société et de la propagande du temps. Alors, autre dossier faisant partie de ma première série d'imprimés de René Hauté, la documentation administrative et professionnelle. Là, je dévie un petit peu de nos fonds d'écrivains pour parler des fonds de maisons d'édition qui ont accumulé, bien sûr, tous les documents officiels comme les listes Otto, les listes Bernard, les mises à jour de listes de livres et d'auteurs interdits, de maisons d'édition interdites ou arianisées. Les documentations du Cercle de la librairie, qu'on trouve dans le fonds aussi Hachette, Calman Lévy, mais on déborde là considérablement des fonds littéraires, bien que ça concerne en premier lieu les écrivains. Donc j'en arrive rapidement à ma deuxième série, et je vais un peu ralentir le rythme. Donc la deuxième série, c'est les documents qui sont mi-imprimés ou renéotés et mi-manuscrits, c'est-à-dire un modèle imprimé et renéoté que les gens devaient remplir à la main. Et c'est dans cette série que l'on contextualise vraiment la vie personnelle et quotidienne des écrivains. Alors, au premier chef, des documents administratifs délivrés par le gouvernement de Vichy, des cartes de presse, Il y a eu une série de cartes de presse spéciales au moment de l'occupation. On en trouve chez nous dans les fonds Pascal Piat et Henri Béraud, tous les deux des grands journalistes. Bien sûr, des papiers d'identité qu'on trouve dans les fonds Emmanuel Bov, Irène Némirovski et beaucoup d'autres fonds, pour ne pas dire tous les autres fonds. Les fameuses cartes de coupons de ravitaillement, comme dans le fonds Jean Cayrol. Divers certificats aux titres les plus étranges, comme par exemple le certificat de soutien indispensable de famille, qui permettait aux personnes qui en étaient possesseurs d'éviter le STO ou d'avoir une période de STO réduite. Bien sûr, des papiers militaires, des cartes interzone préimprimées, des lettres préimprimées pour la correspondance depuis les stalags et les off-flags, des courriers administratifs qui recoupent parfois, qui sont parfois les mêmes que la documentation administrative bilingue et parfois uniquement en allemand, émanant des autorités d'occupation ou de leurs représentants dans l'administration de Vichy. Alors bien sûr, là on trouve les fameux Ausweis et les sauf-conduits. On en a de spectaculaires parce qu'ils ont beaucoup cheminé dans des poches pendant toute ou dans des portefeuilles pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Donc quand on les a encore dans les archives, toutes les pliures sont marquées, le bord des papiers est particulièrement rongé, imprimé sur du mauvais papier, transporté avec soi dans toutes les tribulations. Ces papiers ont considérablement souffert et sont particulièrement émouvants aussi de ce fait. Alors il y a aussi des feuilles de déplacement, des autorisations de circuler, des autorisations de passer la ligne de démarcation d'un côté, de l'autre, des questionnaires sur le personnel des entreprises, en particulier des maisons d'édition, et les fameux questionnaires sur la non-appartenance à la race juive dans les maisons d'édition, ce qui a décapité tout le personnel intellectuel des maisons d'édition dès les premières lois sur le statut des juifs. Il y a aussi des attestations d'arianité, des attestations de non-arianité, des décrets d'arrestation et des certificats d'emprisonnement. Tous ces documents sont des documents qui proviennent directement de l'administration des autorités allemandes en France. Alors, à ces documents produits par le gouvernement de Vichy et produits par les autorités d'occupation, répliquent des contrefaçons et des faux papiers qu'on trouve, par exemple, dans les archives d'Edgar Morin. Et donc, à cette période-là, son activité principale, c'est de rentrer dans des mairies de manière illicite, la nuit, en fracturant des volets, de récupérer des tampons et du papier avec le filigrane de la mairie de hier, il a beaucoup fait ça sur la Côte d'Azur, et de remplir des faux papiers à l'usage des gens qui en avaient besoin, et essentiellement des réfugiés juifs. Et dans les archives d'Edgar Morin, on trouve 20 petits documents, tous les mêmes, pas encore remplis. Et quand j'ai trouvé ça dans les archives au moment où je faisais l'exposition, je me suis quand même permis de lui demander si c'était vraiment des faux papiers. Et il m'a dit, mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 20 faux certificats de travail de la mairie de hier, si ce n'est pour les remplir et permettre à des gens de rester sur place. Et on trouve aussi des faux papiers d'identité, toujours dans le fond Edgar Morin et aussi dans le fond Robert Lapoujade, qui lui ont permis d'échapper au STO. Il a changé de nom, il s'est fait faire une nouvelle carte d'identité et il est parti vivre dans les bois au lieu d'aller au STO. Alors j'en arrive donc à la troisième série qui est la plus intéressante, c'est les manuscrits et les originaux. Et c'est le domaine où l'on commence à saisir vraiment toute la complexité de la situation des écrivains. On peut penser que les écrivains et les intellectuels sont un petit peu la dernière roue du char dans une période politique aussi hachée, aussi troublée que la Seconde Guerre mondiale. Il n'est peut-être pas sûr que les écrivains n'aient pas été aux premières loges exprimant les premiers la pensée de la résistance ou de la collaboration, au contraire. Mettant des mots sur une situation complexe. Alors, parmi ces documents manuscrits et originaux qui n'existent souvent qu'à un exemplaire, les photographies. Alors, toutes ces petites photos au bord dentelées, minuscules, parfois tirées en carte postale, très rarement, et collées soigneusement sur des cartons forts après-guerre, ont été gardées précieusement par leurs propriétaires. À une époque où photographier est un acte encore rare et coûteux, ces clichés obéissent à quelques conventions d'une mise en scène positive, soit de la vie familiale, dans le fond Emmanuel Mounier ou Pierre Segers. Dans le fond Emmanuel Mounier, on voit par exemple des photos d'Emmanuel Mounier après sa libération, retrouvant sa petite fille et la serrant dans ses bras. et des photos de Pierre Segers, là aussi avec sa petite fille, et de l'autre côté de sa petite fille, un grand résistant, Loïs Masson, tout ça à Villeneuve-les-Avignon. Des mises en scène positives de rencontres amicales et professionnelles, on en trouve dans le fond Jacques Lemarchand et Pierre Segers, mais on trouve aussi des portraits faits par des photographes professionnels qui passaient dans les régiments. Alors c'est des photos qui sont faites aux armées. On a par exemple Louis Althusser en élève officier. C'est des photos qui sont faites aussi en oflag ou en stalag par des photographes allemands professionnels. On en trouve dans le fond Jean Hélion, on en trouve aussi dans le fond Louis Althusser et aussi dans les archives de Georges Hiverneau qui a été fait prisonnier pendant 5 années dans un oflag. L'année 1943, qui est certainement l'année la plus dure de l'occupation et celle en tout cas qui a fourni le moins d'archives, c'est la période où les choses sont trop dures et trop tendues pour que les écrivains se préoccupent de garder des archives. On n'a pas beaucoup de témoignages photographiques, sauf cette petite photographie là du jeune résistant communiste Edgar Naoum, dit Morin. En revanche, plus on se rapproche de la libération, plus les gens reprennent espoir et se reprennent en photo. Et on a toute une série de photos de Louis Aragon et Elsa Triolet à Nice, avec Max-Paul Fouché, avec Pierre Segers, avec René Tavernier à Lyon. Et mise côte à côte, on a vraiment toute une sorte de panorama des endroits où les Aragons se sont cachés pendant la fin de la guerre. Et cette série de photographies qui précède immédiatement la libération anticipe l'explosion de photographies qui auront lieu au moment de la libération. C'est le moment où René Char se photographie avec ceux qu'il appelle les braves gens de Céreste, c'est-à-dire le maquis de Céreste avec lequel il a travaillé dans les Basses-Alpes, et photos qu'il a envoyées absolument à tout le monde, à Max-Paul Fouché, à René Tavernier, donc on les a déjà dans plusieurs fonds. Alors un cas de figure intéressant, il est possible de reconstituer en prenant les photos venant de plusieurs fonds, par exemple le fonds Emmanuel Mounier, le fonds Max-Paul Fouché et le fonds Pierre-Emmanuel et Pierre Schaeffer. Dans chaque fond de ces archives, il y a 3 ou 4 photos sur les journées de Lourmarin. En septembre 1941, qui vire le passage d'un mouvement qui s'appelle Jeune France et qui était financé par Vichy à la résistance. Chacun a pris des photos. Si on les regroupe toutes ensemble, on a le film presque des 3 jours qu'ont duré les journées de Lourmarin et on voit ces jeunes gens. Jeunes poètes, jeunes écrivains, jeunes musiciens, jeunes artistes, à qui Vichy paye quasiment des vacances dans le château de Lourmarin en Provence, et on voit sur les visages, sur l'atmosphère que dégagent ces photographies, que ces jeunes gens sont en train de prendre conscience que ce que Vichy leur propose comme futur n'est pas le futur qu'ils veulent pour la France et pour leur vie à eux-mêmes. Et donc, pendant ces 3 journées, on voit dans les photos regroupées et provenant de plusieurs fonds le passage se faire vers la résistance. Et je ne crois pas que ce soit de la surinterprétation, c'est vraiment, ça se voit sur les visages des gens qui sont photographiés. D'autre part, des lettres, des articles et des rapports complètent ces photographies où l'on voit par exemple Claude Roy, Armand Guibert, Pierre-Emmanuel, Max-Paul Fouché, Armand Guibert, Pierre Segers, Henri, Irénée Maroux, Loïs Masson, Luc Dietrich, Lanza Del Vasto. Plus de 50 personnes, 50 jeunes gens ont assisté à ces rencontres de Lourmarin. Un autre ensemble de photographies provenant de 2 fonds, le fonds Jean Paulhan et le fonds Jean Blanza, reconstitue là aussi comme le film d'une journée, d'une réunion de résistants qui s'est passée pas loin d'ici, dans le Calvados, entre Jean Paulhan, Jean Blanza et Daniel Vallard, mettant au point une forme de résistance intellectuelle. On est en 1942, en mars 1942. Bien impressionnante aussi la dernière photo de Max Jacob, prise 4 jours avant son arrestation à Saint-Benoît-sur-Loire. Le poète Marcel Béalu est venu le voir. Ils ont été photographiés par la compagne de Marcel Béalu. Et le 24 février 1944, Max Jacob se fait arrêter. Vous vous rappelez certainement qu'il appelait la Gestapo Gétapo, et la Gétapo est venue l'arrêter à Saint-Benoît-sur-Loire et lui destinait le même sort que sa sœur et son beau-frère, c'est-à-dire mourir dans un camp de concentration. et d'extermination. Max Jacob est mort à Drancy de pneumonie le 5 mars, au moment où Sacha Guitry et Jean Cocteau et quelques autres de ses amis arrivaient à obtenir du gouvernement de Vichy une attestation de relax. Bien que leur statut ne soit pas le même, il ne faut pas oublier non plus les photos de Pierre Jahan, qui était un photographe professionnel à Paris pendant toute la durée de l'occupation et qui n'a pas fait, comme le photographe Zucca, des photographies en couleur avec la pellicule Agfa allemande que lui fournissait la revue Signal. Lui, il a travaillé en noir et blanc pendant toute la guerre, mais il a aussi publié dans des revues qui avaient l'autorisation de paraître. Mais il a fait des tas de reportages sur le Paris de l'occupation qui sont tout à fait intéressants. Autre chose curieuse, certaines photos qui illustrent la résistance, par exemple, sont des mises en scène et des reconstitutions faites après coup. Il y a un petit volume qui s'appelle Imprimerie clandestine, qui est un merveilleux petit ouvrage, d'ailleurs, sur le rôle des imprimeurs qui ont payé un tribut très fort pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont souvent été arrêtés, déportés et tués. Donc dans ce volume qui s'appelle Imprimerie clandestine, le photographe Robert Doisneau a demandé aux imprimeurs encore vivants de retourner dans leurs ateliers et de faire comme si ils imprimaient des tracts, des affiches ou des publications des éditions de minuit clandestinement la nuit comme ils le faisaient. Et donc il faut à chaque fois faire un petit peu attention. Les belles photos qui sont censées représenter la résistance sont souvent des reconstitutions faites après coup. On en a un autre exemple dans nos fonds. Dans le fond, Max-Paul Fouché, il est photographié dans son bureau à Alger, là où il faisait la revue Fontaine. Et ces photos ont toujours été publiées comme étant des photos faites pendant la guerre. Bon, c'était à Alger, il ne risquait pas énormément de choses, mais enfin quand même. Or, c'est des photos reconstituées après la guerre. Et d'ailleurs, il suffit de regarder ce qu'il y a dans le fond de la photo. On voit un portrait de De Gaulle qui a été fait au moment de la libération, et on voit aussi un sommaire de Fontaine qui date de septembre 1944. Alors, autre série importante, c'est les manuscrits et les dactylogrammes d'œuvres en cours qui se trouvent donc dans les fonds d'archives d'écrivains. Et à cet égard, le fonds Irène Némirovski est le plus étonnant et le plus terrible, car on peut y voir son dernier manuscrit, Suite française, interrompu le 13 juillet 1942, le jour de son arrestation à Issy-l'Évêque. Et bien sûr, comme on sait, elle a été déportée et elle est morte, donc le manuscrit s'est arrêté, inachevé, à cette date du 13 juillet 1942. Dans le fond, Alain Robbe-Grillet, à contrario, on voit le premier manuscrit du futur leader du nouveau roman, qui est une courte fiction qu'il a écrite en 1943, mais qui a comme toile de fond le bombardement du port de Brest en 1940. Dans le fond, Simone et Louis-Martin Chauffier, tous les deux grands résistants, on trouve surtout les amorces de leurs mémoires qu'ils vont publier après la guerre. Et elle en particulier, lui, ne va pas aller jusqu'au bout. Il a publié un livre sur son expérience des camps de concentration, mais c'est surtout elle qui a publié leurs mémoires de couples résistants, et on trouve donc toutes les étapes différentes, qui est d'ailleurs assez intéressant de comparer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont barrées et qui tombent d'une version à une autre. Pareil dans le fond Vladimir Posner. Dans le fond Jean Val, on trouve les quelques rares poèmes manuscrits et dactylographiés qu'il a écrits à Drancy ou juste après. Jean Val, professeur de philosophie à la Sorbonne, était persuadé que le gouvernement français ne pouvait rien contre lui. Donc quand les lois portant sur le statut du juif ont été édictées, il a dit « moi je vais aller à mon commissariat me déclarer ». Et tout le monde lui a dit « non, c'est surtout pas ça, attention, prévois une filière pour partir ». Il a été au commissariat et le surlendemain, il a été arrêté chez lui. Il a donc été envoyé à Drancy. Grâce à son ami, le philosophe Pierre Boutang, qui n'était quand même pas de son bord politique, il a pu sortir de Drancy dans un camion de boucherie, enveloppé comme un quartier de viande dans un camion de boucherie. Et Pierre Boutang a organisé son départ de Marseille, il a pris un bateau et il a été aux États-Unis. Et ses archives montrent aussi les manuscrits de toutes les conférences qu'il a faites aux États-Unis pour soutenir l'effort de guerre des Américains, en leur expliquant ce qui se passait en France et comment des gens comme lui, philosophe d'origine juive, mais ne se trouvant pas proche de l'esprit juif avait été lui aussi extrêmement menacé. Et alors sa conférence aux États-Unis commence par « J'ai connu le pays du diable ». Et il explique que la France occupée, c'est la France soumise au diable. D'autres cas de figure, comme le manuscrit d'un autre écrivain qui se trouve dans le fond de celui à qui on a envoyé ce manuscrit. Par exemple, dans le fond, Jean Lescure, qui a préparé un volume qui s'appelle « Domaine français », qui a été un numéro spécial de la revue Message, qui a été imprimé par son ami François Lachenal en Suisse. Donc, Jean Lescure a collecté quantité de poèmes manuscrits non signés, parce que c'était des poèmes de résistance. Voilà le poème, la première page du poème « Veilleur du pont au change », qui est un poème résistant extraordinaire de Robert Desnos, dont le manuscrit, un des manuscrits, se trouve dans les archives de Jean Lescure, puisqu'il a figuré dans le volume « Domaine français ». Alors on a aussi des manuscrits de Robert Desnos, de Louis Aragon, de Benjamin Fondane, de Pierre Emmanuel et de bien d'autres. Des poèmes manuscrits non signés, donc ça suppose qu'on connaisse l'écriture, mais qui est parfois aussi travestie au cas où ces manuscrits tomberaient dans des mains inamicales. Donc ça demande tout un travail de l'archiviste assez complexe. Bon, il suffit de savoir, d'avoir en tête une anthologie de la poésie française de la Résistance, on trouve quand même assez facilement. Mais de la même manière que les plaquettes des éditions de Minuit étaient publiées sous des pseudonymes de guerre, ces poèmes publiés dans le domaine français n'ont pas été signés, donc les manuscrits non plus ne sont pas signés. Dans le fond, Max-Paul Fouché, on a aussi des manuscrits du poème d'Éluard. Là, je vais le poème dont le nom n'est pas très fixé. Alors, c'est le poème Liberté. Vous savez, j'écris ton nom, Liberté, etc. Vous savez probablement tous que c'était au départ un poème d'amour qu'il a écrit à sa compagne, Nouche. J'écris ton nom partout, etc. Et puis à la fin, étant pris d'un mouvement de résistance, au lieu de mettre « J'écris ton nom, Nouche », il a mis « J'écris ton nom, Liberté ». Et ce poème, qui est un poème de hasard et certainement un poème de circonstance, va devenir absolument le poème représentatif de la résistance poétique. Dans le fond, René Tavernier, il y a un brouillon au crayon sur du très mauvais papier à la graphie chaotée. C'est le paragraphe d'un très long et très beau poème de Louis Aragon qui s'appelle « Le musée Grévin » et qui a été rédigé en août-septembre 1943. Alors, pourquoi l'écriture en est-elle toute chahutée et le papier si mauvais et le crayon si pâle ? Georges Sadoul raconte que c'est peu de temps après avoir quitté la maison de René Tavernier près de Lyon que Louis Aragon et Elsa Triolet ont appris l'existence d'Auschwitz et que leurs deux amis, Maï Politzer et Daniel Casanova, y étaient probablement mortes. Ils ne savaient pas encore avec certitude. Et donc, Louis Aragon, dans le train, a rédigé ce petit paragraphe qui est venu s'inclure dans ce grand poème, qui avait d'ailleurs déjà été imprimé à plusieurs reprises, qui s'appelle « Le musée Grévin ». Dans le fond, Jean Paulhan, un dactylogramme signé « Une Française » raconte un récit d'exode. Alors, « Une Française », ce n'est pas très éloquent, c'est un dactylogramme très précis qui raconte l'exode d'une femme entre Paris et Poitiers. Et à force de lire ce texte que je trouvais extrêmement précis et intéressant, et vraiment on était avec cette femme qui fuyait sur les routes de France, qui montait dans un train, mais le train repartait en arrière, qui reprenait la route, qui ne savait pas trop où aller, chaque nuit posait un problème, où allait-on pouvoir dormir, des nuits où elle rencontrait absolument personne, et des jours où elle croisait des gens qui remontaient vers Paris et à qui il fallait expliquer qu'il fallait plutôt partir de Paris et qui étaient doublés par des régiments de l'armée française qui fuyaient dans le plus grand désordre. Enfin, elle raconte ça très très bien, y compris aussi les attaques de Stuka. Et elle raconte même qu'elle est tellement fatiguée qu'un jour elle va dans un champ de blé en courant et elle s'endort là. Les Stuka sont partis, mais elle est là, elle fait sa sieste au milieu du champ de blé tellement elle est fatiguée. Donc ça, c'était un très beau manuscrit et j'ai compris au bout d'un certain temps qu'il s'agissait de la femme de Jean-Richard Bloch. En regardant l'endroit où elle arrive, j'ai compris que c'était ça. Il y a également, toujours dans les archives de Jean Paulhan, le déchirant récit de la mort de Jean Prévost, donc le seul écrivain qui soit mort les armes à la main, le 1er août 1944 dans le maquis du Vercors. Emmanuel Lévinas, donc son petit carnet de captivité d'un jeune professeur de philosophie, vraiment tout jeune encore, adjudant, prisonnier au Stalag 11B, et dans lequel on voit les prémices, ça a été publié, ça, on voit les prémices de sa philosophie de l'altérité se mettre en place. Jean Genet a tenu un tout petit carnet minuscule, mais vraiment grand comme ça, pendant qu'il était en prison à Paris, et en 42, en avril 1942, et c'est une période où il y a eu des bombardements très forts, et il est là tout seul dans sa cellule de prison, il se demande ce qui se passe, il se demande s'il va être libéré aussi par ce bombardement, ou si au contraire il va mourir sur le bombardement, et il écrit un poème qui va figurer dans Notre-Dame des Fleurs. Dans un petit carnet des années 42 et 44, Maurice Maillard, qui était le responsable à Vichy de la presse en zone non occupée, tient le compte de l'argent, des subventions qu'il donne aux uns et aux autres. Et il est assez intéressant de voir que Vichy a financé, a abondé les finances du syndicat de la presse parisienne, bon, qui lui était assez favorable, mais aussi d'autres journaux qui n'étaient pas spécialement favorables à Vichy. Et dans l'ensemble des journaux qui ont été financés, il y a Paris Soir, il y a Le Journal, Le Temps, Le Figaro, qui a fini par se saborder, L'Effort, Le Jour, Le Petit Journal, Les Débats, La Croix, Le Modan. Ce n'était pas des journaux résistants, hein, mais c'était des journaux qui avaient l'autorisation de paraître, mais qui n'étaient pas pour autant des supporters de Vichy. Alors on en arrive presque au plus intéressant, c'est les journaux intimes. Alors certains sont inédits, ceux de Ludmila Savitsky, Roger Lannes, Pierre Andreux, Robert-Jean Longuet, Maurice Saxe, François Lachenal, Max-Paul Fouché, Jacques Prevel, qui a été publié partiellement. D'autres ont été publiés, Georges Verneau, Maurice Alboix, Pierre Brisson. Je vous ai parlé tout à l'heure des petits carnets de Louis Althusser. Il a donc tenu à l'OFLAG un journal de travail et un journal de réflexion. Le poète Jacques Prevel, lui, semble ignorer complètement la situation. C'est pourtant un jeune poète qui vit à Paris, mais probablement ne souffre-t-il pas spécialement de la situation, parce qu'il a eu une vie extrêmement misérable avant, pendant et après. Et finalement, pour quelqu'un qui est uniquement préoccupé de poésie et qui se targue de trouver à Antonin Artaud divers produits illicites et du papier, il est uniquement obsédé par ça et il ne parle que de ça. En revanche, le journal de François Lachenal, qui est un jeune diplomate helvétique qui est à Vichy, à la Légation de Suisse, alors lui, il ignore superbement le danger, alors qu'il a passé son temps à prendre des manuscrits et à les faire imprimer en Suisse, à rapporter les livres en France. Il aurait pu se faire arrêter 20 fois. Je l'ai connu sur la fin de sa vie, Yves aussi. C'était un homme qui avait un sourire absolument angélique. Et on imagine qu'il devait se sentir protégé par ce sourire. Et en tout cas, il a fait vraiment des choses où il a risqué complètement sa vie sans en laisser trace dans son journal. Cependant, dans son journal, il y a quand même des passages qui sont extrêmement cryptés, entièrement en abrégé. Les mots sont réduits à la première initiale. Parfois, la première initiale est permutée avec la dernière. Et bien sûr, ça intrigue. Alors, il faut les recopier, il faut essayer de comprendre. Et on a passé une semaine avec Olivier Corpet à essayer de décrypter 5 lignes. Et on a fini par comprendre qu'il s'agissait là d'un rendez-vous clandestin, résistant, avec des décisions prises, etc. Et ça devient... C'est un peu le problème des archives résistantes, c'est que pour les décrypter, il faut beaucoup travailler. Le journal de Georges Verneau est particulièrement émouvant, car après des pages et des pages totalement déprimées sur sa condition misérable de prisonnier de guerre, il inscrit à la dernière page du 8e et dernier carnet, 6 avril 1945, 20h25, fin. Et c'est les Américains qui viennent de libérer son OFLAG, il n'en croit pas ses yeux. Le fonds Roger Lannes contient en tout et pour tout une seule pièce d'archives, son long journal qu'il a tenu de 1936 à 1980. Il était à Paris pendant l'occupation, c'est extrêmement intéressant. Le journal de Maurice Saxe n'est pas le journal attendu d'un collaborateur cynique, mais au contraire celui d'un juif qui se pose des questions et qui pense que ce n'est pas le moment d'être non solidaire avec les juifs. Donc ça contredit beaucoup l'image qu'il a donnée de lui-même et l'image qu'ont donné ses biographes par la suite. Marcel Jouandeau, qui a tenu à faire le premier voyage de Weimar en octobre 1941, a tenu son journal. Son journal a été publié dans la NRF de Drieux-La Rochelle. Et le manuscrit de son journal se retrouve dans le fonds Jean-Paul Hans et non pas dans les archives de Marcel Jouandeau. Pourquoi ? Parce qu'il a été un peu... Il ne se sentait pas très à l'aise, Marcel Jouandeau, avec ce voyage qu'il avait fait. Et puis, après la guerre, il a été pris dans les problèmes d'épuration, très, très menacé. Donc, il a donné le manuscrit de ce journal, qui prouve, selon lui, sa bonne foi et son amour pour la culture allemande, à Florence Gould. Et Florence Gould savait que Jean-Paul Hans avait beaucoup tensé Marcel Jouandeau, lui avait demandé de ne pas aller à ce voyage en Allemagne d'octobre 1941. Donc Florence Gould l'a redonné à Jean-Paul Hans avec l'accord de Marcel Jouandeau. La page de couverture d'un des journaux de Marguerite Duras qu'elle a tenu au moment du retour de son mari Robert Anthelme en 1945. Alors, le texte qu'elle a écrit là-dedans va devenir La douleur, qu'elle ne publiera qu'en 1985. Donc, elle a laissé passer 40 ans. Et on remarquera, mais vous ne le voyez pas, que ce texte s'appelle ici, non pas La douleur, mais Pas mort en déportation. Et elle décrit de manière très dure et très sèche et terrifiante l'état dans lequel son mari, Robert Anthelme, est rentré dans des circonstances rocambolesques que je ne vais pas décrire ici. Alors, il y a aussi des lettres reçues et des doubles de lettres envoyées qui sont extrêmement instructifs pour comprendre les réseaux, les relations entre les gens, ce qu'on savait pas. Là, c'est vraiment la vérité des relations entre les gens qui se trouvent là dans les lettres. Un fonds est particulièrement intéressant de ce point de vue, c'est le fonds Jean-Paul Hans. Non seulement parce qu'il fut un grand épistolier, écrivant plus d'une vingtaine de lettres par jour à des nombreux correspondants de tous bords politiques, mais en tant que directeur de la Nouvelle Revue française, il représente une sorte de plaque tournante du milieu des lettres des années 30 aux années 60. Et ces prises de position très nettes ont forcé tous ses interlocuteurs, aussi bien un partisan de la collaboration comme Drieux-La Rochelle, ou un résistant comme Joël Bousquet, à lui répondre point par point. Donc toutes ces correspondances sont particulièrement intéressantes. Et par exemple, sur la période de la drôle de guerre, il suffit de lire côte-côte les lettres que Claude Roy, Drieux-La Rochelle, Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, Ramon Fernandez, Robert Brasillac, Benjamin Crémieux, etc. ont envoyé à Jean-Paul Hans entre la déclaration de la guerre et l'armistice pour avoir un tableau extrêmement vivant du milieu des lettres, mais aussi des jeunes gens au front, cette période de la drôle de guerre, et un tableau autrement plus vivant que ce qu'on peut lire dans les manuels d'histoire, car c'est vraiment la situation vécue par des intellectuels et mise en mots par des écrivains qui apparaît là avec ses contradictions, ses dilemmes, ses réseaux, ses errements, ses espoirs. Ça, c'est une lettre que Louis Althusser, jeune soldat fait prisonnier, laisse glisser le long de son wagon qui l'emmène vers une destination inconnue, à l'usage de son oncle André Boulogne. Il va en faire deux comme ça, sur un cahier d'écolier, et glisser à travers les fentes du plancher. Les Juifs, quand ils seront déportés, ne vont pas faire autre chose. Et les gardes-barrières passaient après les wagons, ramassaient les petits bouts de papier, se chargeaient de les faire parvenir à leur destinataire. Il a donc fait glisser deux lettres à son oncle André Boulogne, juste pour lui dire qu'il fallait prévenir l'école normale supérieure qui ne serait pas là la semaine prochaine au cours. Et les deux lettres sont arrivées à André Boulogne, et André Boulogne a rendu à Louis Althusser, son neveu, ces deux lettres qui figurent donc dans les archives. On a aussi une très belle lettre, très pleine d'un calme désespoir, de Henri Bergson à Léon Brunschwig, qui lui dit le 31 juillet 1940, nous avons touché le fond de l'abîme, du moins saurons-nous maintenant où était le mal. Alors on a aussi un monument, qui est cette lettre de Jérôme Carcopino, alors directeur de l'école normale, et en passe de devenir le ministre de l'Éducation nationale, à Jean Val pour le révoquer. On est là un mois après la première loi portant sur le statut des Juifs. Donc en gros, Jean Val, d'origine juive, ne peut plus enseigner à l'école normale. Mais Carcopino est un peu gêné d'être celui qui signe la lettre de révocation de Jean Val, donc il va employer des circonvolutions assez extraordinaires, et je vous les lis. « J'estime qu'il ne serait conforme ni à la dignité de l'école, ni à la simple équité, de demander à un professeur de la Sorbonne d'assurer un enseignement sans rémunération. J'ai donc proposé qu'un crédit supplémentaire fût accordé à notre budget pour votre cours. Cette proposition n'a pas semblé devoir être acceptée et ce crédit m'a été refusé. Dans ces conditions, je vous prie de vous considérer comme déchargé de la tâche que vous aviez si aimablement acceptée. C'est une manière polie et contournée d'exprimer quelque chose d'extrêmement violent qui est la révocation du fait de ses origines du professeur Janval. Alors le dernier document que j'ai à vous montrer, c'est un document très impressionnant, c'est la première lettre au moment de la libération du camp de Dachau par l'armée américaine, où était Robert Antel. Donc c'est la lettre du 1er mai 1945 sur un mauvais bout de papier avec un crayon à l'aniline qu'on doit mouiller entre ses lèvres. Robert Antel est en train de mourir de typhus, mais il a quand même conscience que les Américains sont là. Il demande un petit bout de papier, il arrive à marquer cela, où il dit qu'il a su garder, malgré les circonstances, de la joie et de la force. Et tout à la fin, il y a marqué « Où est Minette ?» C'est sa sœur, et il ne sait pas encore qu'elle est morte, elle aussi déportée. Donc cette lettre parvient à Marguerite Duras grâce à François Mitterrand, qui faisait partie de l'armée française qui accompagnait l'armée américaine à la libération des camps. Et c'est grâce à François Mitterrand que Dionis Maskelot a affrété une voiture et a récupéré in extremis le pauvre Robert Antel qui était en train de mourir. Bon, toutes ces lettres sont vraiment passionnantes, intéressantes. Bien sûr, il faut toujours les lire avec circonspection, faire attention au niveau de langage, etc. Mais même la forme extérieure, les enveloppes, les tampons, la manière dont elles ont voyagé, ce sont toutes des lettres fatiguées, écrites à l'aniline, relues par la censure du camp ou la censure de Vichy, occupant tout l'espace de la page. Il ne faut pas gaspiller le papier. Et la poste est vraiment très très lente à cette période. Donc on voit le temps entre le moment où une lettre est écrite et le moment où elle est lue par la famille ou par les amis. En guise de conclusion, je dirais que tout chercheur n'a absolument que l'embarras du choix, grâce en particulier aux nombreux fonds d'archives de revues littéraires dont j'ai assez peu parlé. Esprit, Confluence, Fontaine, Message, Poésie, Trait, mais j'ai parlé de leurs directeurs, qui ont été confiés à l'IMEC depuis 1988 et qui forment un ensemble unique, décisif pour la documentation et la compréhension de la résistance intellectuelle. Mais l'archive peut-elle parler si elle n'est pas un minimum sollicitée, interrogée, mise en question, si on ne doute pas de chaque mot et des circonstances de la production de ce document? Pensez à ce que je vous ai dit sur les photographies et ce qu'on a entendu ce matin sur les témoignages. Car elle est d'abord l'archive, le vecteur idéal pour montrer les passerelles, en l'occurrence entre les groupes de résistance et les écrivains, entre les hommes de lettres et les imprimeurs, les typographes et les diffuseurs. Sa présence, la présence de l'archive, rend évidente la constante circulation clandestine d'écrits, de poèmes, de lettres, de revues, l'importance de l'organisation en rhizome et de la diffusion en étoiles. Son contenu permet de déchiffrer les pseudonymes de guerre, évoque les passages des intellectuels d'un bord à l'autre. Vous savez qu'il y a des intellectuels qui ont été pro-fascistes et qui sont passés du côté de la résistance. Claude Roy a été Action française avant la guerre, il est passé au Parti communiste et à la résistance. D'autres ont fait le chemin inverse, bien sûr. Alors, le passage des intellectuels d'un bord à un autre, ou leur attentisme spéculatif, ou leur fascination pour la collaboration, ou leur sacrifice à l'esprit de résistance, grâce à tous les fonds sollicités, grâce à tous ces éclats d'histoire qui forment un puzzle qu'il faut reconstituer, c'est sûr, nous pouvons donner à voir autrement cette période, de cette vision différente de l'histoire, plus existentielle, peuvent naître et doivent naître des recherches inédites et de nouvelles perspectives. Je vous remercie.